Soyez les bienvenus sur Radio Grand Air. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé. Le talk show radio sur Radio Grand Air, votre web radio en pays foyen sur radiograndair.fr.
Chut, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc de Pineuil, votre spécialiste culture, centre commercial Grand Pineuil.
Et merci de nous rejoindre pour Chut, on écoute la télé, l'hebdo sur Radio Grand Air, des équipes de films, des comédiens, des chanteurs et bien d'autres pour cette heure que l'on démarre ensemble maintenant. Alors c'est parti pour le sommaire.
Chut, on écoute la télé,
le talk show radio.
Et au sommaire de votre émission Chut, on écoute la télé de ce lundi 21 octobre, dans un instant, nous allons recevoir ceux qui vont faire un carton, j'en suis sûr, avec la suite des municipaux. Les Chevaliers du Fiel seront nos invités exceptionnels pour démarrer cette émission à l'occasion de la sortie des municipaux. Trop, c'est trop mercredi dans les salles. Nous terminerons tout à l'heure l'émission avec les L.I.G. Le groupe de trois filles revient sur le devant de la scène avec un nouveau single, des projets. Avons-nous parlé évidemment de tout ça dans Chut, on écoute la télé. Et puis nous parcourons ensemble nos coups de cœur télé de cette semaine. Nous aurons le plaisir de recevoir Éléonore Bernheim et Nicolas Gob pour le retour de la série L'Art du Crime sur France 2. Nous aurons également le plaisir de recevoir Naïma Rodrigue. Elle joue le rôle de Lucille dans Un si grand soleil. Elle sera notre invitée également tout à l'heure pour nous parler de son rôle et de l'évolution également dans la série. Et puis interview père-fils avec Farouk Bermouga et Grégoire Champion. Ils jouent le rôle de Victor Brunet de Timothée dans Demain nous appartient. Ils seront également nos invités exceptionnels. Alors on va tout de suite démarrer avec les audiences de la semaine dernière sans plus tarder. Et juste après, on accueille les Chevaliers du Fiel.
Les tops et flops d'audience.
Et on va faire un petit tour rapide vers les audiences de la semaine dernière, à commencer par lundi dernier. C'est le foot qui arrive en tête des audiences sur M6 avec France-Turquie. C'est 6 988 000 téléspectateurs, un énorme carton et 29,8% de part de marché. Coup de foudre en Andalousie sur TF1 arrive deuxième avec 4 065 000 téléspectateurs et 17% du public. The Victim sur France 2 s'effondre à 1 576 000 téléspectateurs seulement et 6,6% de part de marché. C'est un flop pour Faut pas rêver en Provence avec seulement 6% du public et 1 334 000. Sur France 3 mardi, eh bien, c'est un beau carton pour la série avec Julie Depardieu, Alexandra L. 4 044 000 téléspectateurs, 18% du public et soit sur TF1 arrive deuxième avec 3 395. Maléfique sur M6, 2 451 000 et c'est un flop pour l'émission Pour la Terre de France 2. Seulement 2 300 000 téléspectateurs qui sont sentis concernés en tout cas par cette émission, 12,3% de part de marché. Mercredi, Good Doctor arrive en tête des audiences sur TF1, 4 474 000 téléspectateurs et 19,7% du public. Alex Hugo en rediff attire toujours quand même des téléspectateurs, 3 247 000 téléspectateurs. Et la carte au trésor, eh bien quand c'est pas en Nouvelle-Aquitaine, hein, ça a du mal, hein, on va le dire comme ça. On est un peu chauvin, vous le savez. Eh bien c'est 8,9% de part de marché seulement et 1 762 000 téléspectateurs qui ont regardé les images de la Seine-Maritime. Et puis il y avait Olivia sur TF1 jeudi, et bien la nouvelle série avec Laetitia Millot a attiré 4 149 000 téléspectateurs. Et puis le film de Mohamed Hamidi pour sa première diffusion sur France 3 a attiré 2 755 000 téléspectateurs pour le film La Vache. La meilleure offre sur M6, petit score, 9,4% et 1 853 000. Et vous avez la parole et faites un flop retentissant sur France 2 avec 6,3% de public et 1 201 000 seulement. Allez, tout de suite, on accueille les Chevaliers du Fiel. Dans Chut, on écoute la télé, c'est notre spécial Les Municipaux qui démarre maintenant.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, coup de cœur cinéma, cette semaine consacrée aux municipaux. Et là, trop, c'est trop. Je peux vous le dire, un an et demi après, ils sont de retour pour le meilleur. Et pour le meilleur, de ce que j'en ai vu en tout cas pour l'instant. Et on a la chance d'avoir avec nous les Chevaliers du Fiel qui sont de retour dans notre émission. Très heureux de vous recevoir, Eric Carrière. Bonjour.
Mais bonjour, on est ravis.
Merci d'être avec nous. Francis Ginibre, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. On va resuivre les aventures de Gilbert et Christian qui nous manquaient tant depuis un an et demi. Mais alors déjà, moi, la première question qui m'est arrivée, comment vous avez fait pour remettre comme ça un deuxième opus en à peine un an et demi plus tard, arriver à réécrire un film, le tourner, le monter et là, nous le servir dans deux jours déjà au cinéma. Eric.
C'est des questions d'envie, à la fois l'envie du public
qui nous donne quelque part les moyens d'en faire un deuxième, puisque le premier a bien marché. Et puis, question de nous, d'envie de faire ces deux personnages, de raconter encore des histoires, de passer des nuits et des jours avec toute cette colonie de comédiens qui jouent avec nous. Donc, c'est l'envie qui enlève la fatigue. Donc, quand on a envie, on a envie.
Alors, ce qui est bien, c'est qu'on retrouve tous les comédiens hein, du premier, donc on sera pas perdu. Hein. Moi, je vous conseille même, c'est d'aller voir le premier, il est en DVD aujourd'hui. Donc, c'est vraiment d'aller voir le premier avant d'aller voir le deuxième au cinéma dans deux jours.
C'est vrai, on retrouve la même bande, il y a toujours les mêmes comédiens. En fait, sur le premier, certains, on les a rencontrés. C'est la première fois qu'on travaillait avec eux. Lionel Abelansky, qui joue le maire. Bruno Locher, qu'on adore, mais avec qui on n'avait jamais travaillé. Et là, donc, de se retrouver, ben, je crois que ça a amené beaucoup plus de complicité, très rapidement. Et pour l'instant, ce qu'on ressent, c'est que les gens nous disent qu'ils préfèrent le deuxième au premier. Je pense qu'aussi, à travers ça, ils ont senti qu'il y avait plus de complicité entre justement cette bande de comédiens qui s'est un peu regroupée autour de nous et qu'on a retrouvé avec bonheur hein, dans le deuxième volet.
Alors, je crois que c'est Eric, un peu la tête pensante, qui écrit beaucoup. Il sort beaucoup de lignes, puisque c'est ce que vous disiez, d'ailleurs, hein, pour pas citer, c'est France Bleu, hein, bien sûr, sur lesquelles vous officiez aussi. Vous êtes habitué à sortir beaucoup de sketchs régulièrement. Donc, en combien de temps s'est écrit ce deuxième opus après la sortie du premier? C'était pas commencé à écrire, honnêtement?
Non, c'était pas commencé. Non. Mais c'est toujours latent, en fait, quoi. C'est-à-dire... Par exemple, s'il y avait un troisième, aujourd'hui, je sais comment il commencerait et comment il finirait. Or, il n'est pas du tout question encore de tourner le troisième, mais c'est toujours en attente, il y a toujours un stock d'idées, quoi. Ça marche comme ça. Donc, moi, tous les jours, j'aligne selon les dossiers, selon les sujets, des choses possibles, des pistes à creuser. Après, j'en parle avec Francis, on choisit ensemble, on fait ça, on fait pas ça. Bon, voilà, selon nos envies aussi.
Je suis sûr que l'événement politique de mars prochain va vous donner des idées, moi, pour le troisième. Je le sens. N'est-ce pas, Francis?
Bah oui. Bah déjà, le maire de Port-Vendres, le vrai, hein. Lui, il a misé sur ce film pour les prochaines municipales. Non, mais ça, bon, c'est entre guillemets. On l'aime bien. En tout cas, il nous a ouvert grandement les portes de la ville et ça facilite les choses quand on fait un film parce que Port-Vendres est devenu un vrai studio pendant 2 mois.
Là, on prépare pour les fêtes de Noël sur C8 une grande rétrospective de l'année 2019. Donc, mois par mois, comme un JT. Et c'est une suite de sketchs qui illustre tout ce qui s'est passé dans l'année. Ben par exemple, que Chirac soit mort ne m'inspire absolument rien, ni dans l'envie de me moquer, ni dans l'envie de l'honorer, ni dans l'envie de je sais pas quoi, parce que je ne suis pas chansonnier, donc j'ai pas envie d'en parler comme ça. Enfin bref, dans cette rétrospective, il y aura rien. Je vais trouver un gag pour l'évoquer, pour expliquer pourquoi il y a rien, mais il y aura rien, parce que moi, voilà, ça ne m'inspire pas, j'ai pas de conneries qui me viennent à l'idée sur le fait que Chirac soit mort, alors qu'il y a plein d'autres choses qui peuvent même être graves, qui sont inspirantes.
Alors, la chanson des municipaux, évidemment, elle résonne, hein, on se l'écoutait juste avant de vous accueillir, c'est cet hymne. Donc là, ça commence par le mariage de Gilbert et de Véro. Elle fait combien en taille, l'actrice qui joue Véro? Parce que franchement, Francis, vous paraissez tout petit à côté.
Oui. Alors, elle est grande, déjà, naturellement, elle est grande. Et puis, en plus, là, on l'a agrandie dans le film, évidemment, pour augmenter encore plus le rapport. Et c'est vrai que ça paye, parce que quand on nous voit à l'église ou hein, le truc, c'est disproportionné. Mais justement, ça tombe bien, parce que justement, dans le film, voilà, je me marie avec elle, mais un peu contre mon gré, puisqu'elle me fait peur.
C'est presque contraint et forcé, hein.
Ouais. C'est une vraie mente religieuse. D'ailleurs, elle me le dit clairement, je vais te manger le corps. Et ça me fait très peur. Bon, voilà, dans cette saga des municipaux, on a rajouté justement un peu plus de vie intime. On apprend à connaître un petit peu la vie privée de ces municipaux. Celle d'Éric aussi, qui est grande gueule en tant que chef syndicaliste. Et puis après, quand il rentre chez lui, bon, mais évidemment, c'est pas lui qui fait la loi. Et il subit plutôt qu'autre chose.
Il va subir beaucoup d'ailleurs dans ce numéro 2.
C'est le cas des gens très occupés, souvent les leaders, tout ça. Quand ils rentrent chez eux, ils ont rien à décider. C'est souvent comme ça que ça s'équilibre, hein, la vie. Moi, je voulais montrer un peu ça. Plus bon, ça se finit bien. À la fin, ils se redécouvrent. Dans ce qu'on fait, il n'y a pas de morale. Il y a juste des photos, des espèces d'instantanées de la vie, de la vraie vie des gens, en disant moi, si j'ai un truc à faire passer, c'est ne dramatisez pas tout ça. Ça ne fait que passer. Il y a vraiment rien de grave. On va s'en sortir, quoi. C'est un peu ça le message. Je dirais jamais, moi, dans un film, une pièce ou à la radio aux gens ce qu'ils doivent dire ou penser. Par contre, j'ai envie de leur dire, essayez de pas être triste, oubliez ce qui va pas, regardez ce qui va bien, déjà. Voilà.
Je suis sûr qu'il y a plein de choses à inspirer de faits réels que vous avez pu constater ou voir. Alors, vous écorchez un petit peu l'argent public gaspillé, c'est vrai que ça énerve un petit peu tout le monde. Bah, dans le numéro 1, on voyait ce chasse-neige à Port-Vendre. Je ne sais pas s'il a servi encore, hein, mais ce chasse-neige, à mon avis, pour un moment. Et là, c'est une grue de plus de 50 mètres de haut qui va être un peu le cœur du sujet dans ce numéro 2, en tout cas, pour la partie argent public.
C'est une histoire vraie. Cette grue est à Port-Vendre. Elle a coûté, certains disent 7 millions d'euros, d'autres 9, d'autres 6. Enfin, bon, elle a coûté beaucoup d'argent et elle n'a jamais rien soulevé parce qu'en fait, dans ces ports industriels, depuis 10 ans, les bateaux, les gros bateaux qui viennent, ils ont leur grue intégrée. Comme ça, ils n'attendent pas qu'une grue, enfin, etc. Et ça coûte moins cher aux armateurs. C'est un truc qui est connu de tout le métier, sauf du conseil général, du conseil régional qui ont cramé 9 briques ou 7 pour mettre cette grue qui n'a jamais servi. Et le maire, il m'avait dit, bon, parce qu'on se connaît maintenant, il m'avait dit, tu mets pas ça dans ton film, parce que bon. Et j'ai dit, mais non, je le dirai pas trop, en fait, ça commence par ça. Bon. Mais c'est mérité, quoi, parce que quand même, c'est quand même beaucoup d'argent.
On va bien rigoler. Moi, je vous le dis, mercredi au cinéma, on va écouter déjà la bande-annonce, hein, rien que pour commencer à rire, les municipaux, trop, c'est mercredi au cinéma.
Est-ce que tu me reçois ?
Je te reçois, Christian, mais je te mets pas 5 sur 5. Je te mets 4 sur 5 parce qu'il y a des grésillements.
Allez ! Cette fois-ci encore, on l'a bien préservé, la planète.
C'est beau, tous ces municipaux. Il va falloir commencer à écrémer.
Rien qu'à l'idée qu'ils vont virer du monde et qu'on fait rien.
On fait rien, on réfléchit déjà.
Mais on va pas se laisser faire. Hein.
La révolte gronde. Ouais.
La lutte se prépare.
C'est la lutte.
Pas maintenant.
Alors, ils en sont où à la permanence ?
Ils en sont au Ricard.
Voilà.
Je te quitte.
Tu me quittes ?
Réfléchis, putain, je sais pas, moi, regarde-toi. Enfin, personne n'en voudra.
Tiens !
Je vous propose
la grève du zèle. Travailler tout le temps, en sur-régime.
Cette mesure mérite réflexion.
Levez le verre, si vous êtes pour.
Les municipaux, trop, c'est le film à ne pas rater pour ces vacances de la Toussaint qui démarre. Moi, je vous dis, on va bien rigoler. Et puis surtout, on va vous retrouver aussi avec votre spectacle Camping Car Forever. Alors, vous serez du 27 au 30 novembre à Toulouse. Là, c'est votre fief. Vous êtes prêts, là ?
Oui.
Ah oui, en plus,
on est d'autant plus près que ce spectacle, bon, c'est la deuxième saison qu'on le tourne. Et nous, on s'éclate à faire ça parce qu'avec Eric, c'est l'occasion de changer de rôle toutes les 3 minutes. Voilà, c'est un spectacle où on joue tous les personnages. Je crois qu'on en fait une dizaine au total. Et là aussi, on retrouve, deux Français moyens, le couple Lambert, qui enfin partent en camping-car.
Ça pourrait faire l'objet d'un film, ça je suis sûr. En tout cas, en Nouvelle-Aquitaine aussi, on vous y retrouvera puisque le 22 janvier, vous serez au Zénith de Pau. Vous serez également le 30 à La Rochelle et le 31 à l'espace Cara. D'Angoulême, nous en tout cas, on y sera pour vous accompagner et pour être dans le public avec vous et vous soutenir dans cette aventure. On va marquer une petite pause, on revient dans quelques minutes les amis. Vous restez là ?
Il faut bien manger.
Exactement, on va manger et on revient juste après. En attendant, on va parler de Constance, de Liane Folie, de tous ceux qui vous accompagnent dans le film. Il y a pas mal de surprises et on va en parler dans un instant, à tout de suite.
Bouge pas, chut, on écoute la télé, reviens dans un instant, à tout de suite.
Attention, événement exceptionnel, chut, on écoute la télé, Bergerac 95 et Radio Grand Air vous présentent Tom Fragé en showcase et dédicace. Un rendez-vous unique, mercredi 23 octobre à 18h à l'espace culturel Leclerc du Grand Pinœil. Tom Fragé vous présentera en live son 3e album au large des villes. Alors venez chanter avec l'auteur du tube Lady Melody. Un rendez-vous, espace culturel Leclerc, chut, on écoute la télé, Bergerac 95 et Radio Grand Air.
Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio.
Et de retour dans Chut, on écoute la télé avec notre spécial Les Municipaux. Trop. C'est dit, c'est mercredi et c'est au cinéma. Nous sommes avec les Chevaliers du Fiel qui sont nos invités. Francis et Eric, merci infiniment en tout cas de nous faire l'amitié de passer dans notre émission. On était là pour le premier, on est là pour le deuxième. J'espère qu'il y en aura un troisième, moi je peux vous le dire, parce qu'on a beaucoup ri, on a pu le voir avant tout le monde. Alors il y a quelques surprises dans ce film. Alors moi il y en a deux qui m'ont un peu interloqué, c'est Chantal Latsou et Liane Folly. Qui a eu l'idée de les appeler pour les inviter?
Eric, parce que déjà Chantal Latsou, ça fait longtemps qu'on se connaît. Eric a travaillé avec elle puisqu'il a écrit deux spectacles pour elle. Et voilà, on se croise régulièrement avec Chantal. Et là c'était l'occasion sur un film, parce qu'on n'a jamais joué ensemble. On avait évoqué l'idée de jouer des pièces de théâtre ensemble, mais on l'a jamais fait. Et là, de l'incorporer dans le film, c'était l'occasion de jouer avec elle. Bon, évidemment, elle nous fait du Chantal là-dessous, et c'est pour notre plus grand bonheur. Et Liane Folly, c'est un clin d'œil, puisque Liane, c'est une amie, on l'a croisée régulièrement aussi, et c'est elle qui avait dit à Eric, écoute, si vous faites un film un jour, j'aimerais beaucoup jouer dedans. Et
Eric, qui a présenté comment?
Je lui ai dit... Liane, je l'ai appelé, j'ai dit c'est bon, on a un petit rôle sympa pour toi. Ah génial, je vais faire quoi? Je lui ai dit une pute. Et elle a marqué un temps d'arrêt, elle m'a dit ah oui c'est drôle, et elle le fait très bien. Donc c'est un message pour Liane Folly, tu fais très bien la pute.
Voilà, ça c'est dit. Bon, en tout cas là on va avoir affaire dans ce deuxième opus un dégraissage de la part de la municipalité qui veut dégraisser à fonction publique, hein, on va le dire. C'est 30 licenciements en vue. Alors donc là évidemment syndicat va se lever, c'est la lutte finale, Eric.
Alors ils ont un gros souci parce que nous, on le sait dans le sud, hein, dès que ça devient sérieux, on appelle Paris, parce que c'est forcément les Parisiens qui décident de ce qu'on doit faire. Donc il y a le chef du syndicat qui est parisien, qui descend donc à Port-Vendres, essayer de les convaincre de faire la grève du zèle. Ils votent pour parce qu'ils n'ont pas le choix, mais après ils demandent ce que c'est que la grève du zèle. On leur explique qu'il faut travailler jour et nuit, travailler sans arrêt. Et là il y a une rébellion contre le syndicat, parce qu'ils ne veulent pas travailler jour et nuit.
Ça coince, et ils vont trouver évidemment le moyen de contrer le maire, mais ça, faut voir le film pour savoir comment ils vont y arriver.
Alors je sais, vous tournez assez vite, mine de rien, parce que dans le cinéma, souvent, il faut 2-3 mois pour faire un film. Vous l'avez tourné en combien de temps, vous, celui-là?
7 semaines. C'est assez vite, mais c'est un rythme à peu près normal. Moi, franchement, si avec moi, je le tournerais bien plus vite que ça.
Si, il y a eu combien de pièces montées pour jouer le rôle de la pièce montée du mariage?
Il n'y en avait qu'une, justement. Il ne fallait pas se tromper. Hein. Parce qu'une fois qu'elle était par terre, on ne pouvait pas la retourner, cette scène.
Ah, j'avais envie de ramasser les choux, moi, dans la salle.
C'est du gâchis. Mais bon, c'est du surgelé, hein. Vous l'avez bien vu dans le film, justement.
On a bien compris que c'était du fait maison.
Voilà, c'est du fait maison. Donc voilà. Non, là aussi, c'était une manière de railler les gens qui affichent un peu trop vite tout est fait maison. Là aussi, il y a de l'escroquerie. Voilà. Mais bon, c'est pas que des escrocs hein, dans la vie, on le sait. Mais évidemment, comme c'est une caricature de notre société, là aussi, le restaurateur est un escroc.
Tout le monde y passe. Quelle est la scène qui vous a le plus fait rire? À mettre en boîte, hein, en tout cas.
Oh, il y en a plusieurs, mais je crois que là où on a bien rigolé, c'était la scène où on est dans l'hôtel avec Eric. Il y a toutes les scènes avec Angélique Pincheri quand je la remonte après le mariage. Et il y a aussi la scène.
Vous avez monté les marches combien de fois? Parce que là, j'ai eu de la peine, là, presque. Hein.
Ça, je l'ai refait pas mal de fois, dans tous les sens. Et je la porte très longtemps, toute la journée, là. En fait, j'ai porté Angélique, quoi, parce que. Ouais, c'est bien.
Alors ça, j'ai beaucoup aimé.
Les syndicats aussi.
Voilà, les syndicats, surtout les réunions syndicales avec les cagoules et tout le monde qui dit son prénom. Moi, ça me fait marrer parce que je me disais en le tournant, j'espère que les vrais syndicalistes que je respecte hein, auront de l'humour parce que ça les met en boîte, mais en même temps, je pense que oui, qu'ils ont de l'humour. Et moi, ça me fait marrer ces trucs-là. Parce que bon. Nous, on n'est pas foncièrement de droite, hein, tout le monde le sait. Mais moi, je sais très bien qu'à gauche, ils ont aussi leur délire, leur travers, leurs obsessions, et les petites réunions syndicales comme ça, avec le chef qui a tout le temps raison. C'est quand même pas des idées vraiment de gauche, ça, et en fait, c'est quand même eux qui le pratiquent autant que les autres, quoi. Donc, c'est presque du La Fontaine sur la vie des gens, c'est-à-dire, bon, ça relativise les certitudes, quoi. À dire, il n'y a pas vraiment de certitude. Le maire est un peu pervers, le curé est un peu pervers, le chef n'est pas un chef chez lui, l'amour n'est pas ce qu'on croit, tous ces trucs, quoi.
Oui. Mais en même temps, tout le monde en sort sympathique, en fait. Ouais. Même le maire, il dégage quand même une certaine sympathie. Et justement, parce qu'on pense que personne n'est bon ou vraiment méchant. Mais un peu des deux et en même temps sympathique. On aime ces gens-là.
Un petit coup de cœur, moi, pour Constance qui joue une Mylène extraordinaire aussi dans le film.
Oui, c'est la, elle, voilà, c'est l'équipe rapprochée aussi. C'est pas la première fois qu'elle tourne avec nous. Elle a même tourné des séries télé. Constance, qui est voilà une très bonne comédienne et qui joue voilà le rôle de la potiche parfaite.
Alors, une chose est sûre, c'est que je pense que vous allez avoir votre statut à Port-Vendres si ça continue comme ça, parce qu'il y a beaucoup de touristes qui vont y aller voir. Alors, Port-Vendres, on le rappelle, c'est à côté de Collioure. Je sais pas s'il faut le dire, mais on le rappelle quand même. C'est en région Occitanie, une région, votre région de cœur aussi, et un soutien sans faille de la région aussi sur ce film. Et on saluera aussi notre ami Serge Regour, voilà, qu'on aime beaucoup, qui nous écoute aussi de temps en temps, je le sais, de la région voisine. Et Serge Regour qui fait beaucoup, en tout cas, pour le cinéma dans la région Occitanie.
Oui, oui, bien sûr, mais c'est une région qui, par intermédiaire de Madame Delga, la présidente du conseil régional, sont des gens, moi je suis allé leur vendre l'idée. Bon, alors c'est sûr que les Chevaliers du Fiel, c'est pas trop dur à vendre non plus, mais enfin, bref, elle a tout de suite dit, ben, c'est impensable que vous alliez le faire ailleurs que dans la région. Ben, j'ai dit oui, donc voilà, on est partenaire. Donc oui, ben, c'est bien. En plus, on n'exagère pas, nous, dans les partenariats, les subventions, tout ça. Je pense que depuis qu'on existe, c'est-à-dire plus de 25 ans, aucune institution publique ne nous a jamais donné un euro ou un franc, mais on n'avait non plus jamais demandé. Là, dans le cinéma, c'est pas pareil, c'est atteint des sommes colossales, donc c'est toujours la région aide les films qui se tournent dans leur région, et tant mieux qu'il l'ait fait. Mais on peut pas dire qu'on est abusé, et comme les impôts ne nous ratent pas, franchement, on a du crédit.
C'est ça, voilà, on va le dire. Bon, en tout cas, les municipaux, trop c'est trop, on ne rate pas, ça c'est en mercredi, dans les salles, vous avez toutes les vacances de la Toussaint pour aller savourer ce deuxième opus, moi je vous le conseille. Et puis si vous avez envie d'aller voir les Chevaliers du Fiel sur scène, je rappelle les dates, ça sera du 27 au 30 novembre, ça sera à Toulouse, et on vous retrouvera dans notre région le 22 janvier à Pau, le 30 janvier à La Rochelle, et le 31 l'Espace Cara d'Angoulême. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à deux jours de la sortie pour terminer?
Ah ben, qu'il y ait beaucoup de monde.
J'espère qu'il va pleuvoir beaucoup. Qu'il va y avoir vraiment un temps de merde, qu'il va faire vraiment très froid pendant 15 jours, 3 semaines. Après, ça repart à l'été, moi c'est bon, ça va.
Ouais, ouais, ben la même chose. Ouais. C'est vrai que le climat est très très important dans le cinéma, ça on l'a appris. Il faut pas lutter contre les grosses chaleurs. Les gens vont à la mer, mais par contre la pluie, ça amène les gens au cinéma.
Il fait toujours beau à Port-Vendres en plus.
Un bout de sketch pour ça, c'était deux mecs qui discutaient, qui font du cinéma. Il y en a un qui a dit je suis vraiment très très content, mon film a bien démarré. L'autre il dit ah bon, c'est vraiment un bon film. Il dit non, mais il a fait vraiment froid.
Merci à vous deux en tout cas d'être passés. On va se requitter avec un petit extrait municipaux. Trop c'est trop. C'est mercredi dans les salles. À très vite. Merci à tous les deux.
Merci. Au revoir.
Et merci, longue vie à votre radio qu'on aime bien.
Pourquoi on a des cagoules hein? Pour rester à
l'ouest, à la mode, à l'intérieur.
Pour rester anonyme.
Je le savais, oui, j'ai pas osé le dire.
Putain, il faut les briser menu à seul coup. Et on gagnera.
Ah, on est là anonymement, monsieur le maire.
C'est que c'est du travail de foutre le bordel tout le temps.
Oui, c'est du boulot, hein.
Dis donc, tiens, j'ai même posé ni mon bus.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, focus sur Un si grand soleil. C'est votre série préférée du soir sur France 2 à 20h40. Et je suis super heureux puisque, eh bien, on reçoit pour la première fois dans l'émission Naïma Rodrigue qui joue Lucille. Bonjour Naïma.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Le rôle de Lucille qui a fait beaucoup pleurer dans les chaumières ces dernières semaines avec cette rupture avec Hakim. Et je peux te dire que c'est un rôle qui, à mon avis, Lucille, a marqué un tournant certainement pour toi, non ?
Oui, ça a marqué un tournant pour moi parce que mon personnage a beaucoup évolué, donc j'ai pu montrer plein de palettes différentes dans les émotions, dans l'évolution de cette jeune fille, un peu rebelle, qui commence à s'adoucir et qui montre au public un tout autre aspect de sa personnalité, donc je suis contente, c'est cool.
On avait un aspect très dur au départ, tu l'as fait évoluer énormément. On a vu au fur et à mesure des épisodes, en fait, une Lucille plutôt rock'n'roll, une Lucille drôle, une Lucille tendre. Et c'est vrai que c'est chouette de pouvoir jouer toutes ces palettes-là en un an. On le rappelle, la série existe depuis un an.
Exactement, ouais. Non, c'est hyper intense. Et puis, je pensais pas que mon personnage évoluerait comme ça, donc je suis vraiment contente. Et donc, merci pour ça aux auteurs, hein, parce que c'est aussi grâce à eux.
T'as eu partagé beaucoup de scènes avec le comédien qui joue Hakim. Ouais. Votre première scène, tous les deux, comment ça s'est passé ?
Ah, c'était, je crois que c'était une scène où on devait spécho.
Carrément.
Voilà. Et ouais, on était un peu stressés, mais en fait, ça s'est super bien passé. C'est un super partenaire de jeu. Il est très charismatique. Je pense qu'il va aller très loin, ce jeune comédien, là, Issam.
Et Folco aussi, t'as beaucoup de scènes.
Ah oui, Folco, bah oui. Il est assez... en fait, j'ai que des super partenaires de jeu, que ce soit Maël, Jennifer. Enfin, il y a tout le monde. Tout le monde est super. Et ouais, Folco, ouais, bien sûr. Ah, vous allez voir, ça va être drôle là, ces derniers temps là, ce qu'on va voir à l'écran avec Folco, enfin en tout cas Ludo et Lucille, ça va être très très sympathique.
Si tu avais le rêve d'une intrigue secrète que tu voudrais que les auteurs écrivent pour Lucille, ça serait laquelle ?
Je sais pas, j'arrête pas de parler là en ce moment, j'aimerais qu'elle soit investie un peu plus dans tout ce qui se passe en ce moment avec le réchauffement climatique, cause animale, etc. J'ai envie de la voir un peu, encore un peu plus rock'n'roll, je pense. Là, on a revu une Lucille qui était vachement douce, etc. Mais j'ai envie qu'elle reparte un petit peu dans un côté un peu foufou, comme on l'a connu aussi, tu vois. Mais ouais, je pense le côté... j'aimerais, je sais pas, avoir une intrigue, en tout cas, qui parle du réchauffement climatique. Je sais pas pourquoi, ça me touche beaucoup, en fait. Donc voilà, ça serait cool de pouvoir, à travers mon personnage, défendre ça et parler de ça.
Ça permettrait de toucher un maximum de gens. Parce que il est vrai que dans une série quotidienne, là où il faut se rendre compte, c'est que vous... toucher les gens tous les soirs. Et ben, les gens, par exemple, ben, la rupture avec Hakim, les gens l'ont vécu avec toi. Il y a même eu carrément des hashtags Lukim qui se sont montés. C'est incroyable ce genre de choses. Comment vous l'avez vécu tous les deux, toi et pour le coup le comédien qui joue Hakim? Vous avez été surpris?
Ouais, on était vachement surpris. Après, bon, je regarde pas trop sur les réseaux ce qui se passe parce que parfois, bon, la plupart des gens sont adorables, hein, mais des fois il y a des commentaires qui sont un peu blessants, donc on se dit oh là là. Donc pour nous préserver en fait tout simplement, hein, mais nous on l'a bien vécu. Après on était triste de devoir se séparer en tant que potes dans la vie de tous les jours et de se dire ah on tournera plus ensemble parce qu'on était hyper complices et on est très proches dans la vie quotidienne, donc voilà.
Attends, rien n'est jamais fini dans une série quotidienne, hein. On sait jamais.
J'espère qu'on va me remettre quelqu'un d'autre beaucoup plus tard. Là, j'ai envie de rester célibataire un peu quand même. La Lucille, elle a enchaîné.
Toi qui tournes sur le zoo, pour le coup, le rapport aux animaux, est-ce qu'il y a des animaux qui t'ont fait peur? Est-ce que t'as tourné des séquences dans le vrai zoo de Montpellier?
Oui, ça ouais, on tourne en studio, dans les bureaux.
Les bureaux, oui.
Voilà. Et on tourne dans le vrai zoo de Montpellier. Non, j'adore les animaux. Je crois que c'est un... Comment on appelle ça? Un phase? Non, un... Eh ben, je crois que c'est le truc qui m'a le fait plus peur, en fait. Quand on l'a sorti du truc, j'ai commencé à crier. Mais sinon, non. Oui, ce qui était impressionnant, c'est qu'il y avait des guépards. J'ai eu une scène avec Chris Naon, un réalisateur avec qui on tourne beaucoup. Et il y avait vraiment une grille qui nous séparait. Et le guépard était, mais... à 3 cm de moi, quoi. Enfin, entre la cage et moi. Donc, c'était impressionnant. Mais voilà.
Bon, des beaux souvenirs en tout cas, je suppose, et que tu vas continuer à te faire sur le tournage. On va te revoir là ces jours-ci à l'antenne. On a hâte de revoir Lucille en tout cas, et que les auteurs lui écrivent de belles aventures. Ainsi Grand Soleil, c'est du lundi au vendredi et c'est à 20h40. Le rendez-vous est pris sur France 2. Naïma, ça te laisse le temps pour faire d'autres projets ou est-ce que ça t'a ouvert d'autres portes? On va te voir dans d'autres choses là dans les mois qui viennent.
Oui, j'ai d'autres projets. Là, j'ai tourné dans un film qui s'appelle Musical, un film franco-belge qui sortira en décembre. C'est pas grâce à Ainsi Grand Soleil, hein, j'avais déjà ça sur le côté. Et là, pour le moment, je suis surtout sur Ainsi Grand Soleil et je fais mes projets personnels à côté, mes créations de planches, etc. Quand je peux, quand j'ai le temps, parce que ça demande énormément de temps et beaucoup de travail.
Déjà pas mal.
Ouais, voilà.
Bon, merci à toi en tout cas d'être passé nous voir, Naïma, et on te dit à très vite.
Merci, gros bisous.
Merci. Yes.
Merci, papy.
On a identifié la victime.
J'ai toujours su que vous finiriez ensemble, tous les deux.
Tu fais la baisse sur trouver l'acheteur comme prévu.
Je t'emmène avec moi.
Je dois enterrer ma femme.
Allez, vous le savez, la série Demain nous appartient, c'est du lundi au vendredi à 19h20, le rendez-vous que l'on ne manque pas. Et je suis pas peu fier, et bien aujourd'hui je reçois une interview croisée un peu père-fils avec les personnages de Victor Brunet et de Timothée. Farouk Bermouga et Grégoire Champion sont avec nous. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Merci d'être là. Alors, vous nous créez des émotions incroyables tous les soirs. Les téléspectateurs avec les replays sont à plus de 4 millions chaque soir. Et Farouk, c'est la première fois pour le coup qu'on parle de Demain nous appartient ensemble. Ouais. Est-ce que tu es surpris par l'engouement et malgré la noirceur parfois, voire la méchanceté de ton personnage, l'amour des fans pour toi ?
Ouais, j'ai lu un truc, ils disaient qu'ils adoraient me détester. Donc je pense que dans une série, il y a toujours besoin de quelqu'un qui soit un peu le pendant... noir de la série, et donc voilà, moi j'incarne ça et ça me plaît. Parce que que c'est tous les jours, c'est intéressant à tourner. Et quand on est acteur, jouer des choses dans des zones d'ombre qui n'appartiennent pas à ce que je suis vraiment dans la vie, c'est toujours plaisant. Et donc, c'est fantastique pour moi.
Alors, il y a eu des intrigues avec le personnage de Linda Hardy, des scènes très fortes entre vous. Hein. Comment vous les appréhendez, ces scènes, tous les deux ?
En fait, on a un très très bon rapport avec Grégoire en tant qu'acteur. Moi, je suis le premier à l'avoir accueilli, puisque quand il est arrivé, c'était une scène ensemble. Et puis, il y a ce rapport père-fils qu'on a dans la série, ce qui fait que au-delà de ça, nous, en tant que Grégoire et Farouk, on est devenus très amis et on mange ensemble, on boit des coups ensemble, on se voit en dehors et on travaille ensemble et on parle beaucoup de jeux et d'intimité. Ce qui fait que ça a dû créer naturellement entre nous une sorte d'atmosphère et de symbiose et je crois qu'on s'entend super bien en termes de jeu. Voilà.
Je suis complètement d'accord. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Parce qu'en fait, je crois qu'il a tout dit là.
Il est parfait, hein, t'as vu, hein, comme papa.
Il a une voix, il a les mots, il dit tout ce qu'il faut.
Un charisme. Aujourd'hui, on n'a pas envie d'emmerder Victor Brunet.
Non.
Et à la fois, on aurait presque envie d'essayer d'être son ami.
Ouais, mais c'est le paradoxe de ce genre de personnage. C'est pour ça que c'est agréable à jouer. C'est parce que ça ne peut pas être qu'une facette. Il ne peut pas être que méchant. Il y a aussi des failles. Et dans tout individu, il y a forcément des failles. Et c'est, pour moi, c'est la chose la plus intéressante à faire.
Quel est ton plus beau souvenir de tournage avec Farouk, Grégoire ?
Mon plus beau souvenir de tournage ? Ouais, il n'y a pas de plus beau souvenir de tournage. Il y a des bonnes journées, il y en a des mauvaises. Et avec Farouk, quand je joue qu'avec lui, quand on est que tous les deux, j'ai souvent des très bonnes journées. Parce qu'on arrive à déconner tout en travaillant. Et puis il est là pour me tenir dans le jeu, dans le travail, me dire là ça va pas, là fais attention. Et il me permet de me canaliser.
Alors, par rapport justement à notre personnage, jouer à un jeune autiste, Grégoire, comment tu fais quand on dit action pour rentrer dans la peau de Timothée comme ça de façon tellement immédiate quand on sait au rythme où vous tournez et à la vitesse où vous devez rentrer les scènes en boîte finalement ?
Bah, ça se passe pas aux actions, ça se passe avant en fait. C'est de la concentration. C'est de la concentration, c'est du mental d'essayer d'oublier les caméras, d'essayer de pas penser à son texte, de pas stresser, de... Parce qu'il y a plein de choses à capter sur un tournage entre les déplacements, les caméras, se mettre dans la lumière, le texte, le jeu... C'est très compliqué, mais c'est de la concentration. Et puis après, soit c'est bon, soit c'est pas bon.
Pour toi, Farouk, c'est quoi ton plus beau souvenir de tournage avec Grégoire ?
On en a plein. Moi, j'aime bien les scènes qu'on a eues. Parce que c'était un peu compliqué au départ, le rapport physique avec lui. Puisqu'il joue un autiste. Alors, on sait que le contact physique pour un autiste est toujours assez compliqué. Et moi, j'ai voulu amener ça à un moment donné entre nous, que j'étais une des seules personnes avec Sahel à pouvoir le toucher, à pouvoir le prendre dans mes bras. Et donc il y a des moments d'intimité, de sens, de sentimentalité qui étaient assez jolis à jouer. Et même les scènes de violence que parfois on a en ce moment, voilà, c'est toujours super intéressant. Et en fait, le jeu, c'est un regard et une écoute. Et je crois que tous les deux, on a ça.
Alors, il y a eu des rencontres assez incroyables. C'était le cas en juin au Cap d'Agde. C'était juin au Spoon cet été avec une séance de dédicace totalement hallucinante avec des milliers de personnes qui vous attendaient au Festival de La Rochelle, encore une fois aussi au Festival de la Fiction Télé. Quels sont les plus beaux retours, ceux qui te touchent peut-être le plus, Grégoire ?
Ceux qui me touchent le plus, c'est les personnes qui dans la vie s'occupent d'autistes, travaillent avec des autistes et qui me disent que c'est très ressemblant et c'est à peu près la même chose parce que du coup ça veut dire que le job est fait. Et puis après... quand on vient me voir pour me dire que on y croit, quand on me dit ah mais en fait vous êtes pas autiste, les gens y croient en fait. Je me rends compte que les gens y croient et les gens arrivent même à se poser la question de savoir si je le suis vraiment ou pas.
Ça c'est la plus belle récompense.
Bah oui, parce que du coup c'est que le job est rempli, le contrat est signé et rempli quoi.
Et pour toi Farouk, c'était
non, c'est étonnant, c'est tout l'amour que les gens ont à donner comme ça et quand.
C'est déroutant parfois.
Ouais très. Ouais parce qu'en fait nous on n'a pas conscience de ça, on travaille. En fait, on joue. C'est moi, mon job, c'est de jouer, c'est interpréter. Après, les retours que les gens ont, je j'ai pas de lien avec ça, naturellement. Et donc, je suis toujours étonné que les gens. En plus, moi, le personnage, ils a. Vous êtes pas gentil. Oh, et puis finalement, ils se rendent compte que Farouk et Victor, c'est pas tout à fait les mêmes personnes, quoi. Et donc, ça, c'est vachement agréable.
En tout cas, on a encore des belles aventures à vivre avec vous tout au long de cet automne, j'en suis sûr. On n'a pas fini d'entendre parler de Victor Brunet et de Timothée. Vous voyez longtemps dans la série ?
Écoute, pour l'instant, moi, tant que ça dure, ça me va.
Exactement. Tant que ça nous plaît et qu'on aime et qu'on a envie, on restera.
Eh bien, écoute, nous, c'est pour notre plus grand plaisir, en tout cas, qu'on vous retrouve du lundi au vendredi à 19h20. Merci infiniment d'être passé nous voir tous les deux. Merci Farouk, merci Grégoire et à très très bientôt.
À très bientôt, merci.
À bientôt.
Dans les épisodes précédents.
Je ne peux pas affirmer que Laurence Moiret ait poussé la victime.
Mais vous pouvez affirmer qu'elle a maquillé la scène de crime.
Elle l'a reconnue pendant son interrogatoire.
Plus ils la verront comme une manipulatrice, et plus ce sera facile pour nous de plaider la préméditation.
On va le gagner, ce procès, je le sens.
Si
J'ai jamais gagné d'avance un procès aux assises.
Un agent vient de reconnaître Justine Salieri et Tristan Girard sur une départementale près d'Annecy.
C'est à deux pas de la frontière suisse. On a une demi-heure pour les choper.
Il est forcément pour nous se barrage.
Fait demi-tour, non?
Si les flics ont un signalement, on pourrait aller nulle part là.
Pourquoi on s'est arrêté? Je t'aime et je ferai toujours tout mon possible pour que tu sois heureuse. Pourquoi tu dis ça, maman?
On y va.
Allez, coup de cœur télé cette semaine consacré à la série L'Art du Crime qui fait son grand retour vendredi sur France 2 pour une troisième saison inédite. Alors, malheureusement, c'est une série un petit peu raccourcie cette année, mais qui en plus, par contre, change de format puisqu'on va passer en 90 minutes au lieu de 52 minutes. Mais on va avoir que deux semaines de diff, vous allez nous manquer. Éléonore Bernheim et Nicolas Gobbe, c'est un peu court cette année.
Ouais, c'est un peu court, mais je pense que c'est une volonté de la part de la chaîne, des producteurs, des auteurs. On ramasse le propos, ce sera donc, je pense, que c'est que du bien. La complexité des enquêtes sera encore là. Disons que ça sera le même en plus efficace, encore plus efficace. Mais ça n'est que pour le bien du sujet. Et d'ailleurs, si jamais ça marchait et que les gens étaient là, on en referait 3 et non pas 2.
Voilà, ça c'est une bonne nouvelle.
3,90, donc presque au final 6 fois 52. On n'est pas loin.
Alors, des meurtres dans le milieu de l'art. Au début, sur le papier, sur la première saison, est-ce que vous, en tant que comédien, vous pensiez avoir un succès pareil? Parce que dès les premiers épisodes et dès la première saison, c'est une série qui a fait 4 millions de téléspectateurs. Ce qui est un super score pour France 2 le vendredi soir, Léonore.
Et j'ai envie de vous dire, peu importe le sujet, en fait, ce qui compte, c'est la manière dont c'est traité. Donc, c'était d'une extrême grande qualité. Donc je me disais, enfin, il y avait tout pour que ça marche en tout cas. Et il y avait en plus du meurtre, ce qui est assez inédit, il y avait des enquêtes classiques de meurtre, il y avait cette comédie entre le duo qui faisait le sel de cette série. Donc moi j'ai jamais eu de doute sur le succès de cette série, jamais. Enfin, après il y a des choses formidables qui fonctionnent pas, hein, mais là je trouvais que l'équilibre était partout au bon endroit quoi.
Il a marché, cartonné, et là ça cartonne, c'est chouette.
Mais en fait, c'est bizarre parce que en le faisant, on ne se pose pas ce genre de questions. On y va à fond, on essaye de faire évidemment le mieux possible. C'est comme si c'était toujours en perpétuel. C'est comme une perpétuelle recherche. Et au final, avec cette série, on arrive au fil du temps à faire mieux et à chaque fois mieux et à chaque fois mieux. Et c'est pas parce qu'on est dedans qu'on le pense. C'est que c'est vrai, c'est que c'est un laboratoire qui ne finit pas de s'améliorer. Et du coup, on est un peu victime de notre lâcher prise. On est victime de notre succès, en fait.
Non, mais en tout cas, moi, j'avais pas de doute sur la qualité de la série. Après, tu sais jamais si ça a marché. Mais le fait que ça marche, moi, je trouve ça... c'est bien que c'est quand même le France Télévisions remplit sa mission de service public. On en sort un peu plus instruit, un peu moins ignorant. Et ça, ce succès-là me ravit totalement à ce niveau-là.
Alors on va faire une plongée dans le monde de l'Opéra Garnier pour ce premier épisode. Vous avez tourné vraiment à l'Opéra et quels sont vos souvenirs de ce tournage à l'Opéra Garnier?
Alors franchement, donc on a quand même fait maintenant plusieurs lieux. On a été au Louvre, on a été au Musée d'Orsay, on a fait la colonne Vendôme. On a tourné dans beaucoup d'endroits très forts de l'art. Moi, j'ai été... D'abord, je connaissais pas l'Opéra Garnier, alors que je suis parisienne. J'avais jamais pénétré dans ce lieu. Et j'étais soufflée. J'ai trouvé ça absolument époustouflant. Et c'est le lieu, mais peut-être que les autres, je les connaissais, mais là il y a quelque chose de baroque, de démesuré, et j'ai trouvé ça, j'étais totalement prise par cet endroit, vraiment. Hein.
Mais parce qu'en fait ça fait un peu office de lieu inaccessible. Les autres, bon, ils sont aussi extraordinaires, mais on y a accès plus facilement.
Bon, après avoir tourné 12 fois 52 minutes et avoir tourné ces 2 fois 90 minutes, est-ce qu'il y a un lieu, un musée, un endroit dans lequel vous rêveriez tous les deux de tourner dans un des prochains épisodes?
Alors, il se trouve qu'on peut l'annoncer la saison 4, ce qui est déjà écrite. Il y a Toulouse-Lautrec, Claudel et Van Gogh. Et donc, ça veut dire que Van Gogh, on irait tourner à Arles. Et alors ça, donc c'est pas un lieu, mais ça, je suis, moi, ça m'enchante totalement. Parce que du coup, on n'était que dans des lieux fermés et que là, on va pouvoir tout intégrer, la nature, l'environnement, la ville d'Arles qui ressemble un peu à une petite Venise, je sais pas si vous connaissez. Normalement, c'est ce qui est à venir et j'ai hâte.
Ce que j'adorerais, c'est qu'on fasse... je les saoule avec ça. Je crois qu'ils pensent que ça y est, on le fera pas du coup parce que je les ai saoulés. J'adorerais tourner un épisode à Bruxelles. Oui, et la Belgique a son lot d'art.
Aux endroits, effectivement, où tourner.
Et donc c'est un souhait que j'ai. Mais j'allais dire avant ça, j'ai tendance avec cette série à beaucoup me laisser porter par ce qu'on nous offre et par ce qu'on nous fait découvrir. Parce que du coup, même en tant que Belge, ça paraît débile, mais moi j'étais jamais allé au Louvre, par exemple. Et donc j'ai gentiment pris ma claque la première fois qu'on y est allé.
La claque, elle est bon, soit le Louvre, mais c'est surtout d'être seul dans cet endroit, dans ces lieux où normalement t'es entouré de monde, quoi. Et d'être seul avec les œuvres, c'est particulier. C'est, tu vois l'œuvre d'une autre manière.
C'est à chaque fois une surprise sympa.
C'est une surprise, oui. Mais oui, l'effet de surprise, c'est aussi bien. Alors l'effet de surprise, on va l'avoir aussi. Nous, en tant que téléspectateurs, puisqu'il va y avoir des jolis guests dans ces deux épisodes que l'on va voir, puisqu'on verra cette année Bruno de Brandt, Dunia Cossin, Samory de Crayoncourt ou encore Agustin Galiana qui vient faire un petit tour dans votre série. C'est plutôt sympa.
Et Clémentine Sélarié aussi.
Et Samuel Labarthe.
Ça en fait du monde tout ça. Eh bien, la saison 4 est déjà sur les rails. Alors moi, je vous conseille déjà, voilà, pour que elle soit définitivement sur les rails et que vous tourniez, voilà, très vite et surtout un petit peu plus d'épisodes. Eh bien, regardez Nombreux, l'art du crime. Ça revient vendredi à partir de 21h sur France 2, juste après Un si grand soleil. Et moi, eh bien, je vous souhaite tout plein de bonnes choses pour la suite. Éléonore et Nicolas, merci à vous.
Merci beaucoup. Merci. Merci.
Un homme sensible à l'art, capable d'être ému aux larmes devant un tableau. Vous vous rendez compte? C'est ce qu'il aurait pu devenir si son père l'avait pas bloqué avec l'art. Je suis sûre que je peux l'aider.
L'aider?
Ouais, l'aider, mais je sais pas comment faire. Il s'est refermé comme une huître. Il veut même plus y penser. Il dit qu'il compte sur moi pour les enquêtes policières. Écoutez, c'est simple. À chaque fois que je lui donne un bouquin sur la peinture qui pourrait l'aider, il le perd. Je sais pas comment il se débrouille.
Donc, si je comprends bien, le capitaine Verlet et vous avez vécu un traumatisme familial à la même époque de votre enfance.
Mm-mm.
Et pour supporter ça, sans vous connaître, vous vous êtes mis tous les deux à parler au petit garçon du tableau. Vous aviez le même ami imaginaire.
Ouais.
Allez, on va terminer cette émission dans quelques instants avec les L.I.J. Les trois filles, eh bien, seront nos invités d'honneur également aujourd'hui dans Chute, on écoute la télé. On va parler de leur projet. Alors surtout, ne bougez pas, on revient juste après cette petite pause. À tout de suite.
Bouge pas, bouge pas. Chute, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
L'invité d'honneur de la semaine.
Allez, en cette rentrée, bien, on est très très heureux d'avoir retrouvé un groupe auquel on croit très fort et qu'on aime beaucoup, nous, dans notre émission. C'est le groupe L.I.J. Alors, j'ai beaucoup de chance parce que je suis très bien entouré avec Elisa. Bonjour Elisa.
Salut.
Avec Lucie. Bonjour Lucie.
Bonjour.
T'as fait Juliette.
Oui, salut.
Je vais pas tromper, mais trois prénoms d'un seul coup et puis trois filles, hein, c'est troublant d'un coup, tu vois. Cette rentrée, je suis pas habitué, il y a eu l'été, la pause et tout, voilà. Mais en tout cas, vous n'avez pas chômé. Mais vous n'avez pas chômé de l'été, des concerts, la scène des Franco, la grande scène des Franco carrément. Il s'est passé des choses hallucinantes. Qui c'est qui veut nous faire un petit retour là-dessus? Allez, Elisa.
Alors du coup, depuis juin, on a sorti du coup un single qui s'appelle Pas le Time.
On va écouter d'ailleurs, on va en écouter un petit extrait.
Trop bien. On a sorti un Summer 2017, un Summer 2018, un Summer 2019 et je pense qu'un prochain titre arrive bientôt. Voilà.
Ah, ça, c'est bien. Après Poupée Russe, l'album qui est sorti il y a un an, il y a eu En attendant l'album et enfin, il y a eu l'album puisque c'était des reprises sur le premier. Comment vous avez vécu déjà ce succès incroyable autour de cet En attendant l'album qui a été vraiment pour vous, mais un marasme, vous étiez demandé de partout. Vous avez vécu quelque chose d'absolument incroyable, Juliette.
Et quelque chose d'unique aussi parce que c'est pas ce qui nous est tombé dessus, c'est pas donné à tout le monde. Donc là, on est juste en train de prendre le recul de tout ce qui s'est passé et de se dire bah merci, c'était, enfin voilà quoi, c'est génial. Et on a envie de que ça continue. Donc c'est pour ça que l'album Poupée Russe, c'était important aussi de le faire après ses reprises pour aussi redescendre un petit peu, prendre le recul nécessaire, de composer, de prendre le temps aussi. Sur tout ce qui s'est passé depuis 2015, on est super contente. La musique est devenue notre métier, c'est ce qu'on voulait, donc voilà, on est hyper...
On mesure
la chance qu'on a, quoi. Je crois qu'on se rendra jamais vraiment compte de l'ampleur que ça a pris d'un coup, mais on est très très chanceuse. Donc on espère que la chance nous suivra encore.
Il n'y a pas de raison, j'en suis sûr. Et en plus, voilà, en juillet, vous avez eu le droit quand même à la grande scène des Franco. Comment on vit une expérience pareille, Lucie ?
Oh là là, moi j'étais tellement stressée le jour des Franco, j'avais trop peur et en fait les Franco c'est un grand nom, c'est vrai que même les gens qui s'y connaissent pas du tout en festival, c'est vrai que quand tu leur parles ouais je fais les Franco, tout le monde connaît ce nom quoi, ça fait partie des festivals qui sont assez légendaires, non j'ai dit festival, des festivals. Voilà, et donc du coup, c'était un honneur d'être là, d'être présente en plus à 20h sur la grande scène. C'est quand même
très beau, très chaud et le public était bouillant.
Bouillant, on était avec Boulevard Désert, on a chanté avec eux, il y avait Broken Back avant nous, il y avait Soprano après, enfin c'était une super belle soirée, que des artistes hyper gentils, hyper humains. Enfin vraiment, c'était une belle soirée quoi.
Alors l'album Paupérus, on va y revenir parce qu'il est toujours disponible dans les bacs. Donc moi je vous conseille vraiment, si vous êtes passé à côté, eh bien d'aller vous rattraper en urgence. Comment a été composé, parce que l'autre album était des reprises, donc là c'est vraiment vos compos à vous. Comment vous répartissez les tâches toutes les trois au niveau de la composition et de l'écriture, ou comment vous vous faites entourer en tout cas, Elisa?
C'est un puzzle en fait. C'est un puzzle. Chacune amène une idée à un moment donné. Quelle que soit l'idée, que ce soit un riff de violoncelle, une ligne de voix, une ligne de basse ou de percu. Et puis on se fait passer ça entre nous pour faire après. Enfin voilà, et ça donne une chanson à la fin. Quoi. En fait, il n'y a pas vraiment de méthode précise. C'est un passe-passe permanent. Et puis les textes, on les écrit avec notre manager, donc Aux Armes, de son nom de parolier, qui est auteur du coup aussi de l'album Poupérus, dont on adore la plume. Donc on va choisir par exemple des sujets dont on a envie de parler ensemble, toutes les trois ou tous les quatre avec lui. Et puis après on va coucher ça sur partition.
Bon, on écoute un petit morceau du titre qui est sorti juste en juin, qui s'appelle, rappelez-nous,
Pas le time.
On l'écoute tout de suite.
Arrête tes conneries, j'ai pas le time. Et tant pis si tu trouves ça drôle. Tu fais galerie mais t'es pas de taille, t'es pas synchro. Quand tu fais une cover t'as pas le time. Avec un cello et pas le micro, on fera pas de feat sur ton album. Qu'est-ce que tu veux, je suis trop speed, hey, hey. C'est trop facile, je lâche une punch, ça t'inspire, hey, hey. Nous parle pas, on est trop speed, hey, hey. Pas le time. Et toi tu veux m'inviter à dîner mais t'as pas le trac. Qu'est-ce que t'en dis, j'esquive des tentatives pour t'éviter. Tu manques d'idées, je n'aime pas qu'on traque. C'est pour ça, pas le time. Tu pourrais même poser 10 plaques. C'est pour toi, pas le time. Et je me tape de ce que tu claques. J'suis trop speed, hey, hey. C'est trop facile, j'lâche une punch, ça t'inspire, hey, hey. Nous parle pas, on est trop speed, hey, hey. Pas le time.
Voilà, pas le time. Eh bien, je crois que ça va continuer à pas avoir trop le temps, hein, pour les mois qui viennent, puisque ça va bosser encore dur pour les LIJ. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les mois à venir? Racontez-nous un petit peu, les filles. Juliette.
Il y a un album qui est en préparation depuis quelques mois déjà, donc il va pas tarder à sortir. On peut pas encore donner de date précise.
Plutôt début 2020 ou ça va être vraiment fin 2019?
On sait pas. À la base, c'était pour fin 2019. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on sera en temps et en heure? On sait jamais. Mais en tout cas, c'est prévu vraiment pour bientôt. Bah là, bientôt, on va sortir un nouveau single aussi. Mais ouais, tout ça. Et puis après l'album, s'il sort à temps, encore, on va encore faire de la tournée. C'est ce qui compte pour nous, faire de la scène, faire des concerts. C'est ce qu'on aime faire. C'est pour ça qu'on fait ce métier aussi. Donc
c'est ça qui est important aussi pour vous, c'est justement partager la scène. Vous préférez même peut-être plus que l'enregistrement studio, vous êtes derrière une fenêtre en train de chanter par morceau. Là, c'est un partage, quoi.
Ouais, complètement. Et puis en plus, nous, comme on vient de la musique classique, c'est vrai qu'on se met beaucoup de pression en studio. Dès que c'est figé, on essaye de vraiment... On est très contrôlante et du coup, on est très pointilleuse. Et du coup, c'est vrai que ça perd un peu de sa spontanéité en studio. Alors que sur scène, en fait, on se lâche complètement. On s'en fiche si on chante. Bon, on chante pas non plus trop faux, j'espère. Mais voilà, s'il y a une note un peu à côté, si tant que l'énergie, elle est là, il y a quelque chose qui est quand même beaucoup plus chaleureux, beau et moins... On se regarde moins, quoi. Sur scène, vraiment, c'est avec les gens, pour les gens. Et on est une équipe, quoi. Alors qu'en studio, on est un peu plus... stressé, un peu plus...
On est complètement rigide même, je dirais, même en studio. Par exemple, sur le premier album de compo, sur Poupérus, il y avait ce côté où quand par exemple quand Lucie faisait des prises, moi j'étais avec le casque et je lui disais pas interprète plus comme ci, interprète plus comme ça, j'étais vachement dans le fais attention c'est un peu bas, fais attention c'est un peu haut, ok vas-y sois plus en rythme, alors qu'en fait, et du coup c'était plus trop spontané, c'était un peu trop contrôlé, c'était un peu trop cloisonné même, donc ça peut donner un résultat un peu froid parfois. Et sur scène, ce résultat, il est pas là du tout. Je pense que, en tout cas, sur l'album Poupée Russe, je pense que c'est là que notre musique, elle prend son sens. C'est sur scène. Et ça nous a beaucoup appris aussi de fonctionner comme ça, parce que sur le prochain album, on apprend un peu à lâcher prise, à moins se regarder en studio, et surtout, on s'écoute plus individuellement, en fait. On va vachement faire confiance à ceux qui nous entourent en studio, et puis en nous-mêmes, en nous trois. Et si Juliette, à un moment, elle me dit, ok, ouais, c'était juste, mais l'interprétation elle était pourrie. Bah, je vais la refaire, quitte à mettre une note à côté. Il y aura plus de chaleur, plus d'humanité dedans, en fait.
C'est important de prendre l'avis de chacune d'entre vous pour essayer. Voilà, c'est primordial pour le coup. Troisième album qui va donc arriver dans quelques semaines. Est-ce qu'il y a des collaborations qui sont prévues dessus, des featuring, Juliette?
Oui. Mais ouais, il y a featuring, mais on ne dit pas avec qui. Non, non. Mon manager me dit non de la tête. Non, non. Ouais, après, est-ce qu'il y en a un
des filles ou des garçons pour ce featuring?
Alors là, c'est plutôt plutôt cum.
Ça m'étonne pas.
Peut-être qu'il y aura... Il y en aura d'autres, peut-être.
Est-ce que vous avez des rêves, justement, en matière de featuring, alors qu'on n'a pas été évidemment exaucés sur, forcément sur ce troisième album, mais est-ce qu'il y a des groupes avec lesquels vous rêvez de collaborer ou de faire un duo?
Bah là, en ce moment, on adore Rosalia, qui est une chanteuse qui vient d'Espagne. On adore ce qu'elle fait. C'est un rêve, mais peut-être qu'un jour, on arrivera à au moins partager un bout de scène ou un bout de chanson avec elle. Ce serait bien.
Il y a plein de belles choses en tout cas qui arrivent. On va suivre évidemment l'actualité de cet album. Ça sera notre album coup de cœur de la semaine quand il sortira. On vous soutiendra bien évidemment les filles. Sachez-le, on va découvrir un nouveau single de l'album Poupée Russe. Lequel vous avez envie qu'on passe, tiens, maintenant?
La Marée ou... Ouais. La Marée. Allez, La Marée.
Allez, la marée. Eh ben allez.
Voilà, chanson qui nous prend au trip. Donc on vous la donne.
Eh ben allez, on va nous la livrer maintenant, comme ça. Allez, c'est les LJ dans Chut, on écoute la télé, on écoute La Marée. C'est l'extrait de l'album Poupée Russe. Merci les filles, à très très bientôt.
Merci. Merci. À ce stade, la mer est calme, mais qui sait pour combien de temps. La peur nous terrasse depuis qu'ils se battent en clan. À ce stade, la mer est calme, mais qui sait pour combien de temps. La peur nous terrasse depuis qu'ils se battent en clan. Sur une vague rouge sang, les optimistes se bousculent, les abscisses sont désordonnées, l'ordre donné fait la bascule. Sur une vague rouge sang, les optimistes se bousculent, les abscisses sont désordonnées, l'ordre donné fait la bascule.
À ce stade, la mer est calme, mais qui sait pour combien de temps. La peur nous terrasse depuis qu'ils se battent en clan. À ce stade, la mer est calme, mais qui sait pour combien de temps. La peur nous terrasse depuis qu'ils se battent en clan. À ce stade, la mer est calme, mais qui sait pour combien de temps. La peur nous terrasse depuis qu'ils se battent en clan. À ce stade, la mer est calme, mais qui sait pour combien de temps. La peur nous terrasse depuis qu'ils se battent en clan.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et voilà, cette émission est terminée pour aujourd'hui. Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé. Eh bien, on aura le plaisir de vous consacrer une large partie de l'émission à la sortie du film Mon chien stupide, puisque nous recevrons en exclusivité dans votre émission Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal, qui seront nos invités exceptionnels, accompagnés de tous les enfants de la famille de Mon chien stupide. Ils seront tous là. Eh bien oui, ça c'est une exclue Chute, on écoute la télé. Nous aurons le plaisir de recevoir aussi toute l'équipe de la série Les Grands, menée par Vianney Le Basque, qui sera notre invité, avec bien tout le casting de sa série également, qui seront là. Événement exceptionnel à ne pas manquer, bien évidemment, comme chaque lundi.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Sans oublier nos applications sur iPhone et Android, Chut, on écoute la télé. Quant à moi, je vous retrouve demain sur Radio Grand Air à 10h20 et 16h20 pour les quotidiennes. Retour de l'hebdo lundi prochain à 18h. En attendant, je vous souhaite une très très belle soirée à l'écoute de nos programmes. À demain.
Chut, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc de Pineuil, votre spécialiste culture, centre commercial Grand Pineuil.
Attention, événement exceptionnel. Chut, on écoute la télé et Radio Grand Air vous présente Tom Frager en showcase et dédicace. Un rendez-vous unique, mercredi 23 octobre à 18h à l'espace culturel Leclerc du Grand Pineuil. Tom Fragé vous présentera en live son troisième album Au large des villes. Alors venez chanter avec l'auteur du tube Lady Melody. Un rendez-vous, Espace Culturel Leclerc, Chut on écoute la télé, Bergerac 95 et Radio Grand Air.